101.5 FM.
Et à tous, il est 19h, vous êtes sur Radio G 101.5 FM et c'est l'heure de votre émission cinéma Clap and Chat. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Kevin et Laure. Bonjour à vous deux.
Bonjour Ninon, bonjour Laure.
Bonjour.
Alors au programme, on va parler de deux films français actuellement au cinéma. Chien 51 de Cédric Jiménez et Muganga, celui qui soigne de Marie-Hélène Roux. Et enfin, on fera un petit point sur les événements à venir prochainement à Angers autour du cinéma parce qu'il y a plein de festivals qui arrivent. Alors sortez votre agenda, parce que Clap and Chat, épisode 4, c'est parti. Moteur.
Action. Clap and Chat sur Radio G.
101.5 FM.
Et pour commencer cette émission, on va parler du nouveau film de Cédric Jiménez, sorti le 15 octobre, Chien 51. Et comme d'habitude, on vous laisse avec la bande-annonce et on se retrouve juste après pour en parler.
On a quelques questions à vous poser, monsieur, mais ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Mais nous ne sommes pas tenus de collaborer avec la police. Nous n'avons aucun lien avec votre monde et aucune foi en lui.
On va encore attendre longtemps, les uns.
Vous voulez faire un jeu?
Pourquoi pas?
Ni oui ni non.
Ouais.
Perdu.
Oh, wow.
Le programme Alma et son inventeur Georges Kessel sont les ennemis du peuple.
Alma. Reconstitution.
On m'a verrouillé avec une flic de la zone 2. Il faut que j'enquête avec elle.
Oh, l'assassin de Kessel.
On a pris en chasse un véhicule noir, pas d'identité associée.
Nous allons construire une société meilleure.
Regarde-moi, sale merde.
Plus juste. Plus sûr.
Une fois que je serai sous les verrous, le gouvernement va classer définitivement l'affaire. Vous devez continuer l'enquête. J'ai confiance en vous. Je connais votre histoire.
C'est quoi ce bordel? On connaît votre histoire? On vous fait confiance? Mais vous êtes qui, putain? Oh!
Vous écoutez toujours Clap and Chat sur Radio G et vous venez d'entendre la bande-annonce de Chien 51, le nouveau film de Cédric Jiménez. Kevin, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ce film pour nous le présenter un peu, s'il te plaît ?
Tout à fait, Ninon. Alors, Chien 51, tu viens de le dire, c'est le nouveau film de Cédric Jiménez, donc qui est en salle depuis le 15 octobre. Jiménez, pour vous replacer un petit peu, c'est le réalisateur de, alors dernièrement, Bac Nord, qui est sorti en 2021, et Novembre, qui est sorti en 2022. Donc, on est un peu sur un spécialiste des films policiers, quand même, hein, avec Cédric Jiménez. Et donc, dans Chien 51, on est plongé dans un Paris dystopique de 2045. Qui n'est pas si loin, oui. Alors, va falloir faire attention, peut-être. On a peut-être besoin de se préparer plus qu'on pense. Donc, du coup, dans ce film, la capitale, donc Paris, est divisée en trois districts, fonction des classes sociales de ses habitants, avec un contrôle des mouvements des populations géré par une IA qui s'appelle Alma. Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, eux sont deux policiers de districts différents qui doivent collaborer, aidés par donc cette IA Alma également, sur l'enquête de la mort de l'inventeur d'Alma. Mais ce qu'ils vont découvrir va peut-être remettre en question un certain nombre de choses pendant le film. On va se dire, ok, c'est un peu à la mode, donc on retrouve dans Chien 51 l'intégration de l'IA dans le quotidien des personnages, comme dans Dalloway récemment, dont on a parlé dans l'émission aussi.
Dans l'épisode 1 que vous pouvez retrouver en podcast sur radio-g.fr.
Merci pour la pub, Ninon. Et du coup, ici, Cédric Jiménez, je trouve, va quand même un peu plus loin dans sa critique de l'IA que Dalloway. Ce qui est un peu étrange, puisque Dalloway, c'était presque le prétexte du film, c'était de parler de l'IA et de ses implications.
Oui, c'était, c'était un des personnages principaux.
Ici, c'est pas vraiment le personnage principal, même si il y a une part importante, mais sans trop en dévoiler, c'est pas le cœur vraiment de l'histoire à proprement parler. Mais je trouve, pour le coup, que lui a été plus loin dans la critique qu'on pouvait en faire des événements qui peuvent se produire, etc. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt réussi de ce côté-là. Alors, le film révolutionne clairement pas le genre ni dystopique ni policier. Hein, on est sur quelque chose de très classique. On va pas avoir de très grosses surprises, mais c'est malgré tout hyper réussi. Techniquement, c'est vraiment chouette. Donc aucun souci là-dessus. Petit bémol malgré tout sur Chien 51, je pense que on va être à peu près d'accord autour de cette table. On tombe en fait dans un travers qui est finalement très commun dans les films alors d'action mais pas que, avec l'intégration d'une idylle entre les personnages principaux qui n'a rien à faire ici. Franchement, on s'en serait passé, ça n'apporte strictement rien à l'histoire.
Absolument.
Je ne sais pas ce que ça vient faire là, si ce n'est probablement satisfaire des distributeurs qui veulent absolument qu'il y ait des amoureux.
C'est vrai que ça n'a rien à faire là. Après, pour avoir cherché un petit peu sur le film, je ne savais pas quand on est allé le voir ensemble qu'en fait c'était adapté d'un livre qui s'appelle aussi Chien 51. N'ayant pas lu le livre, je ne sais pas si du coup dans le livre l'idylle est beaucoup plus développée. Mais là, en effet, dans le film, ça n'apporte rien, c'est même presque en trop finalement.
Oui.
Je trouve que
oui, parce qu'en plus c'est
cache un peu le.
C'est... Moi, j'ai je trouve que quoi. C'est mal apporté, mal amené.
Clairement.
Ça, on va en reparler.
On n'y croit pas. On n'y croit pas des masses et ça ne nourrit pas le scénario.
Non,
en fait.
Pas du tout. Et parce que c'est hyper superficiel. Enfin, c'est même pas traité à proprement parler.
Non.
C'est juste là pour dire on a mis une romance, mais.
Comme si c'était le passage obligé un peu.
Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est on remplit le cahier des chartres, allez un petit love interest et puis voilà.
Et quand tu parles de mal amené, moi j'ai eu. Alors je sais qu'on partage pas forcément le même avis sur le film, mais j'ai eu ce ressenti là plusieurs fois dans le film où du coup dans le scénario j'ai senti des rapidités où du coup on arrive à une situation sans vraiment qu'elle ait été déroulée comme un peu un cheveu sur la soupe. Alors c'est sûr qu'on peut pas faire un film de 4 heures non plus, hein, forcément.
Enfin,
le
si,
scénario
mais,
est obligé d'être un peu concis, mais.
Si, mais en Bollywood uniquement.
Oui, alors bon, du coup on n'est plus sur la même chose. Mais je l'ai ressenti à plusieurs moments du film.
Tu disais qu'on n'était pas trop d'accord sur ce point-là que la romance n'apporte rien. Là, on est d'accord.
Ah oui,
mais par contre, on n'est pas trop d'accord niveau scénario. Laure, je sais que t'as des choses à dire. Vas-y, on t'écoute.
Dis-nous tout, Laure.
Oui, non. Alors, je voudrais pas spoiler parce que voilà, la fin m'a énormément déçue. Après, dans le scénario, j'ai trouvé que le fond me manque en fait. Oui, il y a un fil rouge, oui, il y a un déroulé. Je trouve que l'idée de base est très chouette. Là, dans Chien 51, c'est un peu l'IA qu'on connaît, mais beaucoup plus développée, d'une manière très intéressante, ne serait-ce que dans les enquêtes de police, où finalement, on donne à l'IA toutes les informations, toutes les preuves qu'on a, et l'IA élabore
des potentiels scénarios.
Voilà, exactement, des potentiels scénarios.
Avec un taux de probabilité, etc.
Exactement. Ouais. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, il y a, je trouve, dans l'histoire, des petites fulgurances comme ça, qui, moi, vraiment m'ont happé. Et puis il y a des moments où j'attends, c'est long, ça m'emmène plus. Enfin, voilà, on reviendra sur ce que j'ai aimé après, mais au niveau du fond, ça m'a manqué. Et je veux pas spoiler, mais très clairement, à titre personnel, j'ai vraiment une déception sur la fin du film, quoi. Vraiment. Il y a une montée d'intrigue que je trouve vraiment bien, et d'un coup, pouf, c'est voilà.
Et ben c'est là qu'on n'est pas d'accord.
J'ai très envie de spoiler. Hein.
Non, il est toujours en salle. Mais non.
C'est là qu'on n'est pas d'accord puisque moi je suis extrêmement satisfaite de ce film en fait. Vraiment. Je ne savais pas ce que j'allais voir et j'ai été surprise et embarquée tout le long et j'ai trouvé ça très bien fait. Et je pense que j'ai vu les deux autres films de Cédric Jiménez, Bac Nord et Novembre. J'avais adoré Bac Nord.
Oui.
Et là, mais je crois que j'ai encore plus aimé vraiment.
Qu'avais-tu pensé de Novembre ?
J'avais aimé Novembre, mais je l'avais trouvé un peu en dessous.
Ouais.
Là, vraiment, pour le coup, j'ai vraiment été embarquée, surprise. Et ouais, pour moi, le scénario a quand même beaucoup de rebondissements, etc. Dans Chien 51, on a quand même des moments où on pense aller quelque part et en fait, on n'y va pas et on va ailleurs. Et c'est chouette. Moi, j'ai aimé ce truc-là.
Je l'ai pas ressenti à ce point-là. Okay. Vraiment. Hein.
Ok. Kevin, départage-nous.
Compte les points.
Moi, je suis du côté de la chef.
Ah, c'est moi la chef, pour ceux qui ne savent pas.
Tout à fait.
Moi, elle m'a dit qu'il n'y aurait pas de chèque à la fin de l'émission. Hein, méfie-toi.
Kevin, tu feras toutes les émissions à partir de maintenant.
Tu es trop content.
Non, mais vas-y, développe, par contre.
Mais oui, alors, en fait, j'étais vraiment satisfait aussi, mis à part les petits bémols que j'ai posés tout à l'heure, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. Et j'étais content, justement, d'être questionné régulièrement sur ce qui va se passer et sur le scénario que je me fais dans la tête à mi-film en me disant okay, après il va sans doute se passer ça et ah tiens il se passe pas ça, c'est intéressant.
C'est exactement ça que j'ai ressenti. Et en plus,
il y a des petits
nous qui voyons beaucoup de films, on est habitués des scénarios et du coup on a peut-être un peu plus de facilité à se dire bon là on est dans un scénario classique, ça va se passer. Et là je suis sortie de ce schéma et j'ai vraiment apprécié ça.
Ouais, c'est vraiment vraiment intéressant. Alors comme je disais, ça révolutionne pas le genre, on est sur quand même un schéma relativement classique, mais dans comment l'histoire est racontée, voilà, il y a des petits pas de côté par rapport à ce qu'on trouve traditionnellement, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
Et puis on est sur une vraie dystopie, la Chien 51, oui. C'est un univers, moi je trouve que 30 ans presque, on disait tout à l'heure on est en 2045, c'est presque 20 ans,
c'est
parce qu'on
ans.
Est en 2025.
Ouais, déjà. Le temps passe.
Alors c'était voulu par Cédric Jiménez pour le coup. Dans une interview que j'ai entendue de lui, il tiquait même un petit peu sur le terme, dystopique. Mmh. Alors très sincèrement, je suis allée chercher vraiment la définition parce que j'avais besoin de la comprendre. La dystopie, c'est vraiment l'opposé en fait de l'utopie. Ça décrit un monde utopique mais sombre en fait.
Ouais.
Et du coup, dans l'interview, il expliquait qu'il aimait un petit peu plus le terme de présent augmenté. Et en fait, dans son travail, il souhaitait en fait que tout ce qui était apporté dans le film est quand même une réalité. C'est-à-dire que il y a des drones dans le film. Les drones existent déjà. Mmh. Évidemment, ils sont poussé dans une utilisation future bien plus avancée. Il parlait des checkpoints aussi. En fait, comme t'expliquais, la ville en gros est divisée en plusieurs zones de milieu social, hein, très clairement.
Ouais, ouais.
Et pour passer d'une zone à l'autre, on a des checkpoints. Alors, on n'a pas de checkpoints en France, mais potentiellement dans d'autres pays, il peut y avoir ce type de point de contrôle entre guillemets. Ouais. Évidemment, encore une fois, pas exactement comme le film, mais ça nous permet de nous projeter totalement dans la situation.
On a des détails, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ce détail. Ça fait beaucoup de détails.
Trop de détails.
On suit un peu en fil rouge, en arrière, qui nourrit pas vraiment le scénario, mais qui est quand même intéressant de le voir parce que ça concrétise une espèce de terrarité qui existe et qui fait aussi beaucoup écho à des choses qu'on peut vivre. Et je pense que ce mélange de choses qu'on connaît, et il y a énormément de choses qui sont améliorées, comme tu disais, pour le coup, le terme est très très bien choisi, qui font que ça fonctionne. L'ambiance de Chien 51 fonctionne à fond.
Alors, pour le coup, autant il y a des choses que j'ai pas aimées dans le scénario, autant moi ce que j'ai adoré dans ce film-là, c'est vraiment la forme. Et je trouve que dans la forme, il y a un travail qui est vraiment vraiment fabuleux.
Tout à fait.
Il y a une scène avec Adèle qui est poursuivie par, avec le personnage d'Adèle, poursuivi par un drone. Je trouve que qu'il y a un rendu qui est quand même assez fort. On se projette assez bien là-dedans.
Ouais.
Et dans le côté lutte des classes, en effet, on y est quoi. On y est très clairement.
Mais voilà, on n'est pas tous d'accord. Allez au cinéma, vous faire votre propre avis, c'est ce qu'il y a de plus important. Nous, vous voyez ici, on a beau être amis et tout ça, on n'a pas les mêmes avis et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on en discute ensemble. Chien 51, c'est actuellement au cinéma et dans tous les cinémas. Donc n'hésitez pas, allez vous faire vos propres avis. On va maintenant parler d'un autre film qui, là, je pense, nous a mis beaucoup plus d'accord. Il s'agit de Muganga, celui qui soigne, un film qui est réalisé par Marie-Hélène Roux et qui est sorti en salle, le 24 septembre. On remonte un petit peu dans le temps puisqu'on est sorti en septembre, mais c'est important d'en parler et il est toujours à l'affiche au 400 coups à Angers. Donc on va pouvoir en parler et vous allez pouvoir aller le voir au cinéma. Alors Muganga, celui qui soigne, c'est un film qui est très ancré dans la réalité puisqu'il raconte à travers le combat de Denis Mukwege. On va en parler dans quelques instants de Denis Mukwege. Mais le film raconte les violences sexuelles faites aux femmes en RDC, République démocratique du Congo. Alors Denis Mukwege, c'est qui ? C'est un médecin chirurgien gynécologue qui est congolais et qui s'est spécialisé dans les reconstructions de mutilations génitales. En 2018, il va même remporter le prix Nobel de la paix pour son travail et son militantisme en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. Vous le comprenez, on n'est pas du tout sur un film feel good, c'est plutôt un film qui est percutant et je me permets même de le qualifier d'utilité publique parce que nous, il nous a vraiment impacté. Autour de la table, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé, Laure, s'il te plaît?
Le mot impactant, vraiment, pour moi, c'est un film, c'est ce que je me suis dit, nécessaire et impactant. Moi, je suis le genre de spectatrice qui, quand elle sort du cinéma, d'une séance, adore débriefer tout de suite. J'ai besoin d'en parler, etc. Ce film-là, j'ai vraiment eu un... J'ai mis du temps. J'ai vraiment eu besoin de le mot digérer est pas très joli, mais en tout cas de
l'assimiler,
de comprendre ce qui se passait dans mon esprit, dans mon corps finalement. Donc voilà, je pense que c'est un film important à voir. C'est une réalité qu'on connaît pas ou peu, et évidemment, comme c'est loin de chez nous, et ben même si on en entend parler, c'est pas concret en fait. Ça reste
on
très
se
abstrait.
On se sent moins concerné.
C'est ça. Le film démarre sur une scène d'une extrême violence qui pourtant est vraiment nécessaire. Moi, j'ai pas réussi à la regarder jusqu'au bout. J'ai eu besoin de fermer les yeux, tout simplement. Mais vraiment, je suis très heureuse que cette scène ait été là. Elle est faite d'une façon, je spoilerai pas parce que je pense qu'il faut le découvrir. Elle est faite d'une façon qui nous permet, très clairement, nous, en tant que Français, Françaises, Européens, Européennes, de se projeter, de s'identifier et de faire que cette histoire ne soit pas abstraite, en fait.
Ouais, c'est sans trop en dire, mais ça vient casser l'émotion kilométrique.
Exactement. Et pour le coup, Marie-Hélène Roux, il faut savoir qu'elle s'est battue pour cette scène parce que du coup, je sais plus si c'est distributeur, producteur, j'ai un petit doute là-dessus, mais ils souhaitaient pas qu'elle soit gardée. Et pour le coup, elle s'est vraiment, vraiment battue, heureusement. Et quand le film a été présenté dans différents festivals, il y a vraiment eu, bah, comme nous, hein, un retour des spectateurs et spectatrices pour nous dire, voilà, elle est importante.
Elle est importante, elle est violente, mais elle est extrêmement intelligemment faite aussi.
Oui.
On va pas en dire plus, mais elle est très très intelligemment faite. Et c'est un peu tout le propos du film. Le film a un propos politique qui est hyper fort, qui est hyper important. Moi, j'avais pas connaissance de tout ça et vraiment,
non plus.
Je me suis dit, mais c'est fou qu'il y ait ça sous nos yeux et qu'on ne sache pas. Donc non, c'était très bien. Et pour parler purement cinématographique, sans parler du propos qui est fort, le film est bon. Le film est un bon film, c'est un joli film qui est bien réalisé, avec des personnages intéressants, etc.
Des personnages très intéressants, parfois des personnages qui ont l'air absents ou en retrait ou très discrets, mais qui en fait transmettent énormément.
Il y a un casting qui est très très bon dans les personnages secondaires, donc en fait on est dans la clinique à Panzi, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises. Et pour le coup, toutes les femmes qui sont interprétées là-bas sont des femmes du coup victimes de violences. Sexuelle, et le terme violence sexuelle est très léger, je trouve.
Elles sont
vraiment très fortes. Je voudrais dans le casting, parce que vraiment il y a deux personnes qui m'ont beaucoup impacté dans les personnages justement secondaires. Alors j'espère ne pas écorcher leur nom. Il y a Deborah Lukumwena qui joue une femme du coup violée qui tombe enceinte, et en fait à travers son regard on se rend compte du poids de porter un enfant issu d'un viol, et on aperçoit un petit peu dans le film aussi quel est le devenir de ces enfants qui naissent là. Et je trouve que c'est vraiment important. Et la deuxième personne, c'est Babetida Sadjo, qui, si je ne dis pas de bêtises, j'espère ne pas confondre deux comédiennes, qui joue du coup une femme violée, qui est un peu le fil rouge du film. Et il n'y a pas vraiment de parole avec son personnage, mais par contre, il y a un impact qui est fort.
C'est un des personnages que j'ai.
Je trouve que c'est un des atouts du film.
C'est un des personnages que j'ai vraiment aimé aussi.
Ouais, t'as ressenti.
Ouais. Ouais, on suit son périple jusqu'à
l'hôpital.
Jusqu'à l'hôpital, en fait. Et vraiment, ces moments sont à l'écart du reste du scénario. Forcément, ça rejoint maman, mais c'est extrêmement bien fait, encore une fois, extrêmement intelligent.
C'est ça.
Le film est très intelligent.
Ça nous permet de se rendre compte à quel point là-bas, l'hôpital n'est pas à deux minutes, il y a un danger énorme, le temps d'y aller. Enfin, et puis la force de ces femmes, quoi.
Tout à fait. Non, c'est un film qui est très... Moi, qui m'a beaucoup remué, à titre personnel. Enfin, je pense que c'est le fait d'être une femme en plus, mais du coup...
Je pense qu'automatiquement ça rajoute. Je suis pas un homme, donc je peux pas savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme. Mais en tant que femme, je savais déjà que le corps des femmes était politique. Quand on guerre, ça devenait une arme.
Oui, parce que
clairement.
Là, clairement, on a dit le mot violence sexuelle, mais on parle aussi de ces violences sexuelles comme armes de guerre.
C'est ça.
Voilà, c'est vraiment le propos du film. C'est le cas. Là, on parle vraiment de la République démocratique du Congo, mais il y en a dans d'autres pays, ça se passe aussi. Et les viols sur les femmes sont une arme de guerre aujourd'hui dans le monde.
En fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, les femmes et le corps des femmes devient arme automatiquement. À un moment, on entend dans le film Mukanga, il y a un personnage qui demande « Mais pourquoi il ne les tue pas, ces femmes-là » Et en fait, on ne les tue pas pour les laisser parler. La peur est plus forte que la mort.
Mais c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et c'est un peu tout ce que transpire ce film aussi, de se dire à un moment, va falloir qu'on ouvre les yeux, parce qu'on voit ces femmes-là, on voit à quel point leurs vies sont détruites, leurs corps sont détruits, et personne ne fait rien.
Je veux bien rajouter une petite chose. J'ai trouvé ça intelligent dans le travail du film. Donc en fait, à la base, il y a eu un livre qui a été écrit par les deux médecins. Donc c'est Denis Mukwege et Guy Cardière. Et du coup, Marie-Hélène Roux a lu ce film. Elle les a rencontrés. Elle est partie là-bas pour découvrir un peu la réalité. Et de là, elle a eu envie de faire le film. Et elle a mis plus de 10 ans à le faire. Et le film ne retrace pas à 100% la réalité. Elle a voulu justement s'en éloigner très légèrement pour pouvoir mettre en avant le combat des femmes et le ressenti des femmes. Et dans ce choix-là, dans la réalité, c'est le fils de Guy Cardière, donc le médecin belge qui est parti là-bas. Et dans le film, elle en a fait une fille. Et je trouve que c'est très intelligent parce qu'à travers ce personnage-là, donc, qui est joué par Manon Brèche, on se rend compte à quel point il y a ce ressenti féminin, en fait.
Fais-nous un petit mot de la fin.
Ouais, parce que pour moi, c'était vraiment important de le souligner, et on le voit dans ce film, à quel point les femmes ont une force et une résilience d'une intensité insoupçonnée.
Tout à fait, tout à fait. Vous avez compris, Mukanga, celui qui soigne, c'est une vraie claque. Peu importe, je pense, d'où on vient, qu'on sache ou qu'on sache pas ce qui se passe, le film est fait tellement intelligemment qu'on prend forcément une claque. Le film dénonce et pose des vraies questions. On vous conseille d'aller le voir fortement. C'est un film qui est pas forcément facile, mais c'est un film qui est nécessaire, et plus il fera d'entrée, plus on peut espérer qu'il y ait une vraie répercussion sur nos politiques. Mukanga, celui qui soigne, c'est sorti en septembre, mais c'est actuellement toujours au cinéma, au 400 coups, cinéma du centre-ville d'Angers. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment un film qui est très très intéressant. Voilà pour les films actuellement au cinéma, Chien 51 et Mukanga, celui qui soigne. Mais avant de terminer cette émission, on voulait vous parler un petit peu des actualités locales du côté du cinéma. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, donc sortez vos agendas et notez, parce qu'il y a des festivals qui arrivent. On vient de parler de Chien 51 et de Mukanga, celui qui soigne. Ces deux films font partie de la sélection des Capucines du cinéma français de cette année. On vous en a déjà parlé de ce festival et on en reparlera. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur deux autres festivals, puisque ce n'est pas le seul festival à Angers. À partir de demain, jeudi 13 novembre, et jusqu'à dimanche 16 novembre, c'est la deuxième édition angevine du festival Chant contre Chant. Alors Chant contre Chant, c'est un festival qui met principalement en avant une compétition de courts-métrages, mais pas que. On peut aussi retrouver une compétition de vidéoclips et de nombreux ateliers, rencontres et même des concerts. Pour cette nouvelle édition, Chant contre Chant nous réserve 3 concerts exceptionnels, des ateliers de doublage, notamment avec Dorothée Pousséo.
Ah, ça,
je savais que ça allait intéresser certains. Dorothée Pousséo, Dorothée Pousséo, c'est la voix française de Margot Robbie.
Notamment, parce qu'elle
fait énormément de choses. Elle a fait très récemment Anxiété dans Vice Versa 2 pour les plus jeunes qui nous écoutent. Voilà.
Pourquoi les plus jeunes? Moi, je l'ai vu, j'ai bien aimé.
c'est génial, mais ça le parlera peut-être plus que si je dis Harley Quinn, par exemple. Voilà. Donc, non, Dorothée Pousséo, énorme actrice de doublage. Donc, elle sera en atelier doublage. Et il y a également des tables rondes, des conférences, des séances de dédicace avec d'autres voix françaises, la voix de Homer et Marge Simpson.
Ah, alors qu'ils viennent souvent...
Ils étaient déjà venus l'année dernière, avec Chant contre Chant. Ils étaient venus au Pâté nous présenter un petit peu des courts-métrages, c'était très très sympa. Cette année au Pâté, pour Chant contre Chant, il y a la ressortie exceptionnelle de Natacha, hôtesse de l'air, presque hôtesse de l'air. Et plein de choses à venir aussi. Ce festival, il propose vraiment beaucoup de choses. C'est sur 4 jours, ça se passe à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Et vous pouvez retrouver tout le programme sur leur site chantcontrechant.com. Il y a différentes formules de billetterie selon vos envies, à la journée ou à l'atelier. Et personnellement, j'ai prévu d'aller passer un petit moment sur 4 jours. Je pense que je vais pas être beaucoup chez moi. Est-ce que vous avez vu s'il y a des choses qui vous tentent ou vous savez pas trop encore?
Moi, je suis mauvaise élève. J'ai pas du tout regardé le programme. Par contre, là, tu parles de l'atelier de doublage. Alors, c'est très contradictoire parce que je suis une grande fan de la VO, mais le doublage m'intrigue. Donc, si j'ai la possibilité d'y aller, sincèrement, je pense que je vais aller voir ça.
Je suis intéressé par les mêmes choses que là. Comme quoi, je peux aussi prendre partie pour mes collègues.
Non, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses folles. J'ai déjà ma place pour Natacha, presque hôtesse de l'air, que j'avais loupée à sa sortie. Donc, je suis très contente qu'il ressorte.
Il ressorte en plus en présence, je crois, de personnes du film. Donc, ça peut être intéressant.
Je connais pas du tout le film, je vais aller regarder.
C'est avec Camille Loup. On avait okay. vu et Fabrice
Vincent
Lucchini.
Vincent De Dienne.
Et Vincent De Dienne également. Okay. Très 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 bon casting. Je ne sais pas encore ce que le film donne. Kevin, tu l'avais vu, je crois.
Oui, je l'avais vu, ouais.
Deux mots sans spoil.
Deux mots sans spoil. Deux mots. Franchement, c'était sympa.
Ok, très bien, ça me va. C'est un bon. Bah,
je fais court. Hein.
Non, c'est très bien, parfait. Ah là, il est bien ce petit Kevin.
Deux chèques.
Donc le festival Chant contre Chant, c'est à partir de demain, jeudi 13 novembre, et c'est jusqu'à dimanche le 16. Plein d'activités, il y a même un brunch le dimanche midi.
Et voilà, je suis vendu.
Non mais franchement, il y a plein de trucs très très sympas. Ça se passe à la Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, c'est même accessible en tram pour ceux qui ont besoin. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site chantcontrechant.com, il y a plein de choses très intéressantes. Mais ce n'est pas le seul festival qu'il y a à Angers qui arrive. Mais beaucoup de choses pour le cinéma, moi je trouve ça trop bien. On a le week-end d'après, c'est-à-dire le 21 novembre jusqu'au 23 novembre, le festival Projection Transition qui est organisé par l'association The Shifters. C'est la troisième édition à Angers de ce festival et là pour le coup c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Ça se passe exclusivement au Pâté Angers et cette année c'est 5 films qui sont en ressortie et en fait l'idée de repasser un film pour initier un débat après. Comme il n'y a que 5 films en ressortie entre guillemets, bon, c'est sur 2 jours donc 5 films en 2 jours c'est quand même pas mal.
Oui.
Je vais vous les citer un petit peu. On a l'incontournable The Truman Show qui va questionner un peu sur la vérité et l'illusion. Flo, le film d'animation qui avait attendri tout le festival de Cannes l'année dernière, qu'on avait pas mal aimé. Heure, qui va nous amener à parler de l'IA encore. Grosse question en ce moment, l'IA. C'est un gros débat.
C'est d'actualité.
On a Le Grand Bain aussi, où on va parler du sport durable. Et enfin, on a Les Fils de l'Homme, qui ouvrira le débat sur un monde en plein chaos. Là aussi, vous avez dû comprendre, je pense, le but de ce festival Projection Transition, c'est de nous amener à nous questionner sur des enjeux de société autour d'une thématique qui est forte, qui est l'écologie. On le sait, on ne le dit pas assez, mais oui, le cinéma, c'est politique. On l'a vu avec Muganga, on le voit encore aujourd'hui. Encore une fois, personnellement, il y a plus d'un film et un débat qui me tentent, donc je pense que
ça va être difficile de choisir.
Trois, ouais.
Oui,
franchement, il y en a plusieurs qui me tentent. Il va falloir que je trouve du temps dans mon emploi du temps, mais je pense que je vais aller faire un tour. Ouais. Est-ce que vous, il y a des trucs un peu qui vous donnent envie?
Oui, il y a alors très, très intéressé de revoir Flo et de voir le débat qu'on peut en avoir, parce que comme c'est un film muet,
ça va parler biodiversité.
Comme c'est un film muet et d'animation, je pense que ça peut donner lieu à beaucoup d'interprétations et d'ouvertures, donc ça peut être sympa. Et puis Her. que j'ai déjà vu mais pas forcément au cinéma et qui peut pareil là qui est vraiment très d'actualité sur l'IA, donc je pense que ça peut être très intéressant d'avoir un débat là-dessus ensuite.
Moi j'ai jamais vu, je suis très contente de pouvoir le découvrir en plus au cinéma et en plus d'avoir un débat avec, donc je suis très contente.
Pour je rebondis sur Flo, du coup a priori il y aura des ateliers enfants aussi. Et ça, je trouve ça pas mal d'ouvrir ce type d'événement à des enfants.
C'est une séance familiale, je crois qu'ils appellent ça.
C'est ça,
ouais.
C'est ça, c'est ça.
Donc voilà, plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses qui te tentent, Laure ?
Bah moi, j'ai très envie de revoir Truman Show. J'adore ce film. Pour le coup, Her, je ne connais pas. Les Fils de l'Homme non plus. Donc à voir. Je vais regarder un petit peu de quoi ça traite. Et puis oui, très clairement, je vais me faire une petite séance, c'est sûr.
Et ben voilà, Festival Projection Transition, c'est du vendredi 21 au dimanche 23 novembre au Pâté Angers. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site projection-transition.fr, projection-transition.fr. Plein de choses à venir, j'espère que vous avez tout noté parce que là il y avait vraiment deux festivals
c'est
coup
riche,
sur
c'est
coup.
Riche.
Voilà. C'est la fin de cette émission. Je suis désolée de vous annoncer ça, mais c'est la fin de cette émission. Une dernière petite chose, dans l'épisode 2 de Clap & Chat, diffusé le 15 octobre, on vous a parlé du film T'as pas changé, le nouveau film de Jérôme Commandeur, qu'on avait vu ici en avant-première.
Et qu'on avait bien aimé.
On avait bien aimé, et on vous en parle aujourd'hui parce que ça y est, il est sorti au cinéma.
Allez-y.
On l'avait vu aussi. Quige. Voilà. Donc si vous avez envie d'un film feel good, un peu années 90, n'hésitez pas à aller voir T'as pas changé, Jérôme Commandeur, actuellement en salle. Voilà.
Bonne séance
à vous.
Et c'est la fin définitive de cette émission. Non, on se retrouve dans 15 jours.
Voilà. On se retrouve dans 15 jours.
Beaucoup d'événements cinéma en ce moment, c'est très chouette, je suis très contente. Merci beaucoup à Laure et à Kevin d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Merci
à toi.
Merci à vous de nous avoir écoutés sur Radio G 101.5 FM. On le rappelle une dernière fois, Chien 51 et Muganga, celui qui soigne, c'est actuellement au cinéma. T'as pas changé également, dont on vous avait déjà parlé. Toutes les infos et les dates du festival qu'on a présentées, vous pouvez les retrouver sur notre page Insta et sur notre page Facebook.